With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
L'Angleterre va-t-elle bloquer le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft? Et Sony qui s'en mêle? On a aussi des nouvelles du côté de la suprématie des Guillemots sur Ubisoft et des petites informations sur les nouveautés de Assassin's Creed. C'est tout de suite, on va en parler. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu. On vous résume toute l'actu du jeu vidéo et on le fait dans la bonne humeur. On est, qu'on soit fatigué ou pas. Moi, je me suis couché tard parce qu'on a débriefé la keynote Apple, Guillaume de Nowtech. Hier soir, c'était un moment sympathique. Ça a duré 2 heures quand même, le débrief après la keynote de 1 heure et demie. Donc, mais on est là, fidèle au rendez-vous. Je dis on, je parle de moi et d'Escarina. Comment ça va, Escar? Tu reviens de vacances, soit. Enfin, tu reviens.
Tout à fait.
Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, t'es allé en vacances.
Oui, bah ça, ma rentrée date de la semaine dernière. Tu vois, je suis presque rentrée en même temps que ma fille. J'ai presque fait la rentrée scolaire au boulot. Et j'ai passé un mois au soleil à manger des choses grasses et à boire, à boire de l'alcool avec modération, mais quand même. Donc, au soleil, toute bronzée, enfin bref. Et en plus de ça, j'ai réussi à trouver le temps pour jouer. On en reparlera tout à l'heure. Donc, tout va très bien. Je te remercie.
T'es contente, c'est bien.
Ouais, je suis, ça m'a vraiment fait énormément de bien.
Super. Eh bien, écoute, pour ma part, moi, je suis vaillant et fidèle au poste depuis quelques semaines déjà, et donc on ne va pas s'arrêter là. Et ceux qui ne s'arrêtent pas là non plus, c'est les Patriotes, puisqu'on a un nouveau Patriote qui nous a rejoint, Yves, qui est devenu Patriote depuis la semaine dernière. Je crois avoir entendu dire que depuis qu'il a pris cette décision, sa vie s'est largement améliorée. Visiblement, il se trouve plus beau, plus intelligent. Les gens autour de lui l'admirent. Donc, je ne sais pas, moi, c'est des témoignages que je ne suis pas allé vérifier moi-même, mais je pense qu'ils sont assez crédibles et cohérents avec ce qui se passe souvent pour les patriotes. Donc, si vous voulez, comme Yves, devenir patriote, ben vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech. Et si vous trouvez le niveau secret, vous serez comme Urgar, le producteur, qu'on remercie tous les mois. Merci Urgar d'être le producteur de cet épisode. Si vous avez cet épisode, c'est grâce à lui. Et sans autre forme de transition, on va se diriger vers les infos à retenir avec une info incroyablement importante, mais plus importante que toutes celles que vous avez entendues depuis le début de cette émission. C'est que c'était l'anniversaire de Dany il y a quelques jours et que j'ai oublié de lui souhaiter.
Aïe, aïe, aïe.
Donc, ça, c'est, vous savez, Dany, un des co-animateurs réguliers de l'émission, maintenant il a un petit peu moins de temps, mon collègue de Azeroth.fr, j'ai oublié de lui souhaiter. Et du coup, je dois dire que c'est la vérité, c'est ce qui m'a été imposé. Dany a vraiment toujours été meilleur que moi. Au jeu de combat. Et c'est clairement la vérité, évidemment, et c'est ce que je dois dire, étant donné ce qui s'est passé la semaine dernière, pour espérer me faire pardonner de sa bonté suprême de Dany. Donc voilà, c'est fait, je l'ai dit. Bon anniversaire, Dany. Envoyez-lui des bisous d'anniversaire à @notdany sur Twitter.
Joyeux anniversaire.
Mais oui. Plus important que ça encore, si c'est possible, non, ça ne l'est pas, donc c'est moins important. On a eu des nouvelles des autorités anti-concurrence anglaises qui sont en train de regarder le deal entre Activision et Microsoft, enfin Activision Blizzard et Microsoft, pour le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, et le CMA, qui est donc l'autorité qui s'occupe de ça, semble être la seule qui, à ce stade, fait de vraies difficultés à Microsoft pour son rachat. Les autres autorités semblent être relativement, enfin en train de passer en revue, mais au minimum neutres. Là, la CMA semble dire on n'est pas tout à fait sûr que ça soit une bonne idée, cette histoire. Pourquoi ? Évidemment, parce que ça réduirait la compétition dans le marché du jeu vidéo. Alors, que ça soit le cas ou non, moi, je vous avoue que je ne suis pas complètement convaincu par le fait que ça réduise la compétition. En tout cas, oui, ça va la réduire, mais il y a tellement de compétition sur ce marché qui est hyper dynamique que ça ne serait pas forcément un problème. Bon, ça, c'est mon avis personnel. Mais il n'empêche, du coup, Microsoft est obligé de répondre à, à ces questions. Et ce que dit le CMA, c'est qu'ils veulent en discuter plus avant et recevoir des assurances. Alors, ils ne disent pas qu'ils vont le bloquer, mais recevoir des assurances et des garanties de la part de Microsoft par rapport à certaines interrogations qu'ils ont. À peu près en même temps, et ce n'est pas un hasard, je crois, Microsoft a publié un blog dans lequel ils expliquent à quel point le Game Pass et le rachat par Microsoft d'Activision Blizzard amènerait plus de choix à tous les utilisateurs, à tous les développeurs. C'est un peu... Est-ce que tu te souviens de la présentation de la Xbox One, la toute première, où il y a quelqu'un qui avait fait un montage qui disait TV, 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 television, TV. Tu te souviens de ça ou pas?
Ouais, tout à fait.
Et bien là, c'est un petit peu la même chose, mais avec choice, choice, choice. Dans leur blog, hein, c'est pas une vidéo, mais c'est genre choice, 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 choice. Nous donnons le choix, plus de choix. Les utilisateurs auront du choix. Et c'est vraiment, ils y vont pas avec beaucoup de subtilité. L'idée étant que les gens auront plus le choix de plateformes sur lesquelles utiliser leurs jeux, que les développeurs ont plus de choix pour développer des jeux, etc. Là où c'est marrant, c'est que pour tout le discours que fait Microsoft sur les questions de plateforme et de liberté, il parle des plateformes matérielles. Et ce qu'ils ne mettent évidemment pas en avant et que beaucoup de gens, j'ai l'impression, ne comprennent pas, c'est que Microsoft défend toujours sa plateforme, sauf que la plateforme aujourd'hui, c'est le Game Pass. Le Game Pass, c'est une plateforme qui n'est pas du tout traditionnelle, c'est un abonnement et ce n'est pas une console ou du matériel ou même juste un service cloud, c'est un abonnement. Et ça, c'est leur plateforme. C'est ça qu'ils mettent en avant, c'est ça qu'ils veulent vendre, c'est ça qu'ils développent. Et du coup, le choix, ils sont bien gentils, mais ils défendent leur plateforme exactement de la même manière que Sony va défendre sa plateforme, Nintendo va défendre sa plateforme. Et donc, tous ces arguments, moi, j'ai un petit peu du mal à les recevoir. Mais il n'empêche, cet article de blog semble avoir été publié et préparé pour le moment où la CMA, avec qui il discutait certainement auparavant, rendrait public ses semi-objections. L'un des éléments clés de cette discussion, et c'est presque un petit peu surprenant, même si en même temps c'est pas si surprenant que ça, c'est Call of Duty qui, entre parenthèses, dans le blog, ils disent... Microsoft, qu'ils incluront les jeux Blizzard dans le Game Pass. Les jeux Activision Blizzard, genre Call of Duty, Diablo, enfin, ils mentionnent pas tous les
jeux. On se posait la question,
hein. Ouais.
Il y a quelques mois, on en avait parlé.
Ils parlent même d'Overwatch, et on peut imaginer, alors Overwatch, la partie PVP sera free-to-play, peut-être que la partie PVE sera free-to-play aussi, mais ils disent que tout ça sera inclus. Ils parlent même... alors, ils disent pas World of Warcraft dans l'abonnement, ça, j'y crois pas trop, mais évidemment, on se pose la question. Enfin bref, ils disent, on va inclure tous les jeux. Mais celui qui est le plus comment dire, qui pose le plus de problèmes, c'est Call of Duty.
Qui cristallise toutes les inquiétudes.
Exactement. C'est Call of Duty qui est, alors il se tire la bourre avec FIFA, mais l'un des deux plus gros jeux du monde, qui est le jeu que la plupart des joueurs qui ne sont pas des joueurs assidus achètent chaque année avec FIFA. On dit souvent, hein, on caricature un petit peu, mais on dit souvent, les vrais joueurs, ce n'est pas les gens comme nous qui vont jouer à 10 jeux par an, ou 25, mais les joueurs qui, l'immense majorité, c'est des gens qui vont acheter un ou deux jeux par an, généralement Call of Duty et ou FIFA. Et c'est tout. Et c'est leur jeu. Donc, évidemment, Call of Duty, acquis par Microsoft, ça pose beaucoup de questions. Je ne sais pas si c'est vraiment des questions... Enfin, c'est des questions de concurrence dans le sens où, si jamais Microsoft décide à un moment que Call of Duty est exclusif sur Xbox, ça peut orienter la concurrence, puisque c'est un jeu qui a une importance démesurée dans les préférences des joueurs et dans le marché. Donc, Microsoft a dit, Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Nous avons déjà dit à Sony que nous allions honorer les contrats existants. Bah, merci beaucoup, encore heureux. Honorer les contrats existants qui durent a priori cette année et l'année prochaine. Donc, il y aura les Call of Duty sur ces consoles, sur les consoles Sony jusqu'à 2023. Et ils disent, nous avons pris des engagements pour continuer à développer Call of Duty sur PlayStation pour encore des années à venir. Et c'est là que ça devient un petit peu moins clair, parce que des années, techniquement, 2 ans, c'est des années. Et donc, si dans 3 ans, Call of Duty disparaît de la PlayStation, enfin, une fois que l'acquisition est faite, et une fois que tout ça a été approuvé, et une fois qu'on est avec ces problèmes dans le rétroviseur, bah, si Microsoft décide qu'en 2025, il n'y a plus de Call of Duty nulle part ailleurs que sur Game Pass, personne ne va venir les emmerder. L'approbation aura été faite, personne n'aura le droit de leur dire « Non, vous devez garder Call of Duty ». En même temps, est-ce qu'ils peuvent s'engager à garder Call of Duty sur PlayStation pendant 10 ans. Et puis, Call of Duty, ça fait 20 ans qu'il existe, presque. Enfin, ça fait 20 ans qu'il existe quasiment, mais qu'il est vraiment important, ça doit faire 15 ans. Ça se trouve, dans 15 ans, il sera tout aussi important. Et le fait qu'il s'engage que pour 10 ans, ça ne changera pas. Mais bon, là, on ne peut peut-être pas prévoir pour 10 ou 15 ans à l'avenir. Mais Sony s'en est mêlé également, puisque suite à ces conversations, on a entendu de Sony que la réponse de Microsoft était inadéquate. C'est Jim Ryan qui parlait à GameIndustry.biz parce qu'il dit que les conversations tournent autour d'un accord de 3 ans, si je ne dis pas de bêtises, d'un accord de 3 ans supplémentaires en plus des 2 ans qui avaient été confirmés, donc jusqu'en 2023 si je ne me trompe pas. Donc 3 ans en plus, Sony dit bon, ils viennent faire chier, hein. Évidemment, eux, ils préféreraient que Microsoft ne rachète pas Activision Blizzard. Ils veulent essayer de les affaiblir autant que possible et c'est de bonne guerre, hein. C'est la concurrence, dans ce domaine-là en tout cas. Mais ce qu'ils disent, c'est bah, si dans 3 ans ou 4 ans, il y a Call of Duty qui est plus disponible sur PlayStation, oui, c'est un outil anti-compétitif que pourrait utiliser Xbox. Et on peut difficilement lui donner complètement tort. J'ai encore des choses à dire, mais je vais te poser la question, Escarina. Cette question de Call of Duty semble être celle qui est la plus importante, et on pouvait le deviner quand même dans les discussions quand elles avaient commencé. Tu crois qu'il est si important que ça, Call of Duty, au final, pour qu'il puisse faire dérailler le rachat d'Activision Blizzard ?
C'est une bonne question. Il y a quelqu'un dans le chat qui disait ouais, en fait c'est juste que ils veulent leur dire que Microsoft leur a pas encore envoyé leur chèque. J'espère qu'il y a pas autant de corruption à ce niveau-là, mais effectivement la question elle se pose vraiment et de façon purement très pragmatique, on va dire, si c'est le premier jeu, les premières ventes au monde, en rachetant ce studio-là et en le mettant sous la houlette de Microsoft, il y a deux questions qui se posent. C'est d'un côté le rachat du studio, du jeu, enfin, qui fait le jeu, donc le rachat de la licence, et de l'autre côté, la mise à disposition de licences qui sont aussi puissantes que celle-ci et que toutes les autres qui sont maintenant chez Microsoft sur la plateforme du Game Pass. Pour moi, il y a deux pendants à cette problématique. C'est le jeu en lui-même et ce qu'on en fait sur quelle plateforme, et le fait que le Game Pass devienne une machine, un rouleau compresseur qui face aux autres plateformes similaires commence quand même à une différence énorme.
Je crois que la présence de Call of Duty sur le Game Pass, ça me semble acquis et personne n'a jamais remis ça en question. La question c'était est-ce qu'ils vont continuer à le vendre sur PlayStation ?
Oui, c'est ça.
Mais je crois qu'il sera, et t'as raison, c'est du coup, rien que ça déjà, c'est un truc énorme pour ouais, Microsoft, quoi.
Moi, je pense qu'ils ont raison d'avoir peur et de se dire tout de suite il faut mettre en place des règles du jeu parce que effectivement, je ne sais pas si sur le long terme c'est une stratégie payante pour Microsoft de dire ben on ne met plus Call of Duty sur d'autres plateformes que le Game Pass et que notre Xbox. Peut-être que ça leur ferait perdre plus d'argent. D'ailleurs, je pense que c'est le cas, que ça leur ferait perdre, on va dire en revenus nets, plus d'argent que de contraindre les utilisateurs à une plateforme. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, un joueur de Call of Duty sur PlayStation est tellement accro à Call of Duty qu'il est prêt à tout arrêter chez Sony pour passer sur les plateformes Microsoft ? Ou est-ce que si demain, on lui fait un coup comme ça, il se dit ben, bye bye Call of, et il ira prendre un équivalent ? Parce qu'à mon avis, des studios qui voudront prendre la place de Call of sur les autres plateformes que les plateformes Microsoft risquent de se bousculer au portillon dans un scénario pareil, quoi.
Mais c'est chaud, hein, tu sais, pour ce genre de truc. Évidemment qu'une partie le fera peut-être. Mais alors, passer, si t'es un joueur PlayStation, passer sur Xbox, c'est quand même un acte important, mais c'est pas non plus insurmontable, surtout si on t'a patte avec le Game Pass. Mais je me dis que quand même, si t'es un joueur de Call of et que tu joues à Call of avec tes potes tous les ans et que tu attends le nouveau Call of et que c'est à Call of que tu vas jouer, c'est dur de te mettre tout à coup à Battlefield ou à... Enfin, oui, il y a des gens qui aimeraient prendre la place de Call of, mais ça a toujours été le cas. Il n'y en a pas un seul qui a réussi. On dit dans la chatroom, Sony développe des FPS multi triple A. Bien sûr, tout le monde aimerait prendre la place de Call of, et en particulier chez Sony, ils se disent qu'il faut peut-être avoir sa propre franchise. Mais c'est pas aussi simple. Et on a tendance à dire, ah bah c'est juste Call of, ça va, Call of, c'est pourri.
Non,
Call of, c'est un jeu qui suit un rythme infernal, mais efficace, et qui est d'une qualité difficile à... C'est pas qu'une question d'habitude, c'est aussi une qualité du jeu, un renouveau, un truc qui fait que les gens continuent à l'acheter. C'est jamais gagné dans le jeu vidéo. Le fait que Activision ait réussi, alors oui, il y en a qui sont moins bien réussis de temps en temps, mais qu'ils aient réussi à tenir sur aussi longtemps, c'est qu'ils font des jeux d'une qualité extrême. Et il ne suffit pas juste de dire « Ah bah on aimerait bien faire un Call of pour le remplacer, ouais. Et voilà, et c'est terminé, quoi. »
Pour moi, faire ça, ce serait prendre les joueurs de Call of en otage, et je ne suis pas certaine que ce soit la bonne stratégie, on va dire purement marketing. Enfin, forcément, s'ils font ça, ils vont se taper une... En plus, on sait, hein, que ces communautés-là, c'est quand même des communautés qui sont particulièrement virulentes. Enfin, voilà, ça va être terrible pour leur image. Donc, soit ils s'assoient là-dessus en se disant, bah, tant pis, on va se faire insulter pendant les premières années, et puis ça finira par se tasser. Et quoi qu'il arrive, ils voudront leur dose de Call of et ils reviendront vers nous. Soit ils ont un peu de bon sens et de... Mais bon, l'escarina naïve qui parle.
Non, moi je crois qu'en fait ils veulent garder Call of Duty. C'est trop gros Call of Duty, tu vois. C'est par un comment dire, presque un hasard des développements. Il se trouve que Call of Duty c'est une franchise multiplateforme. C'est marrant parce qu'on dit ah, Call of Duty indispensable machin. Bah, y a des plateformes. Du coup, tu te dirais des plateformes, des titres ou des séries. Bah pourquoi tu mets pas God of War partout ? S'il était partout, il pourrait. Tu vois, c'est un atout énorme de Sony, God of War, et il est uniquement sur PlayStation parce qu'il se trouve que le développeur l'a développé pour cette console, ou bon, en tout cas que c'est Sony qui l'a développé pour sa propre console, mais c'est un énorme atout. Si Activision avait développé Call of Duty uniquement pour Xbox, bah on se poserait pas la question aujourd'hui, bon, il serait peut-être pas aussi gros, bref. Les choses étant ce qu'elles sont, on est dans cette situation. Et
oui, là, on est sur des rachats qui font que après tu as une aspiration de pyramide.
Ouais, c'est ça. Moi, je crois que Microsoft veut pas mettre Call of Duty, ne veut pas retirer Call of Duty de PlayStation.
Ce serait pas un bon move. Je pense que ce serait pas un bon move.
Par contre, ils veulent pas s'engager à le garder pendant 10 ans. Moi, je pense que c'est surtout ça, tu vois, parce que si tu dis on va le garder pendant 10 ans. Eh ben, t'es obligé de le faire. Oui. Le cas de Minecraft, que beaucoup de gens évoquent, est un petit peu différent, parce que Minecraft, ils continuent à le développer, mais c'est pas un nouveau jeu que tu développes tous les ans. C'est pas tout à fait la même chose. Là, on est sur des développements qui coûtent incroyablement cher et qui les engageraient. À voir ce que ça donnera dans 10 ans. Mais, comme tu le disais, c'est maintenant qu'il faut régler ces problèmes et poser ces questions, parce que c'est pas une fois que l'acquisition sera actée et que les gouvernements auront donné leur accord que tu vas pouvoir rediscuter. Donc, c'est de bonne guerre que tout le monde mette ses petites remarques et ses petites discussions maintenant, parce que c'est maintenant que tu vas pouvoir obtenir des choses, quoi.
Oui, ils sont pas bêtes. Le plus flou ils seront sur ces sujets-là, le plus ils pourront en jouer au moment où ça leur rendra service. Donc bien évidemment que le rôle de ces autorités-là, c'est aussi de faire en sorte que les zones de flou soient clarifier le plus possible.
Et Sony est complètement dans son rôle en disant « Non, mais attendez, mais enfin, Call of Duty, vous vous rendez pas compte, machin, évidemment, c'est le jeu, quoi. » Donc bon, voilà pour cette histoire. C'était un petit peu inattendu, hein. Le CMA est vraiment venu mettre des bâtons dans les roues. C'est aujourd'hui la deadline pour les réponses de Microsoft. Donc j'imagine qu'on aura une réponse à la réponse du CMA dans pas trop longtemps. Bon. L'aventure continue. Je me demande s'il n'y a pas d'autres États qui vont s'y intéresser. Je crois que les États-Unis étaient en train de se poser la question aussi de pousser l'enquête un peu plus loin. On verra, on verra. Dans les histoires de gros sous, il y a aussi l'investissement de Tencent dans Ubisoft. Et c'est un truc dont on entendait parler et qui finalement n'est pas du tout ce qu'on croyait. Tencent a investi non pas dans Ubisoft directement, mais dans, alors comment elle s'appelle, Guillemot Brothers Holdings, je crois que c'est ça, qui est la société qui détient la plupart des parts de Ubisoft. Et là où on pensait que ça serait un rachat de Ubisoft, ou une sorte de rachat d'Ubisoft, ou en tout cas une sortie de Yves Guillemot, qui se dirait « Bon, bah, c'est bon, maintenant, Ubisoft, depuis toutes les histoires qu'on a connues, moi, j'ai un petit peu vieilli, j'en ai marre, il y a eu les scandales, je vais sortir, et donc, je vais vendre mes parts à Tencent et je dis au revoir à Ubisoft. » Eh ben, en fait, pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que Tencent a injecté de l'argent dans Guillemot Brothers Holdings et dans Ubisoft, et a permis à Ubisoft, en fait, de se renforcer en ne prenant pas en n'ayant pas des parts de décision dans la société, c'est-à-dire qu'il reste à, je crois, 4,5% aujourd'hui de parts dans Ubisoft, et ils ont l'interdiction de monter au-delà. Non, ils sont à 9,99, pardon. Ils avaient déjà 4,5 et maintenant ils ont 10%, on va dire. Et ils ont interdiction de monter au-delà d'un certain montant et ils n'ont pas de majorité du tout. Ils sont très très bas dans les décisions, même chez Guillemot Brothers Holdings. Donc c'est vraiment une opération qui est très différente de ce qu'on imaginait quand on commençait à entendre parler d'un possible rapprochement entre, enfin, d'une augmentation du capital de Tencent dans Ubisoft. En l'occurrence, ils ont aujourd'hui dans Guillemot Brothers, c'est Limited, pardon, pas Holdings, ils ont 49,9% du capital avec 200 millions d'acquisition, ils ont donné 100 millions d'augmentation de capital, donc ça fait 300 millions en tout. Ils ont 49,9% du capital, mais seulement 5% des droits de vote de Guillemot Brothers Limited, qui est une entité au-dessus de Ubisoft, c'est pour ça que les chiffres sont un peu différents. Donc ce qui est important, ce que je retiens, moi, c'est les 5% de droits de vote. Et c'est un truc qui est négocié par les Guillemot, et en particulier par Yves Guillemot, qui, du coup, veut vraiment rester à la barre, d'après ce que je comprends, et va utiliser l'infusion de cash pour continuer à développer. J'imagine que Tencent a eu des présentations de tout ce qu'ils sont en train de développer et croit à la boîte suffisamment pour investir et se dire on est un partenaire silencieux, on n'a pas notre mot à dire dans les décisions. Et je suis curieux, du coup, de voir ce que ça va donner du côté d'Ubisoft, parce qu'ils sont un petit peu plus calme ces dernières années, je trouve. Il y a eu des petits essais, des petites choses pas forcément très réussies, mais il y a d'ailleurs une présentation qui arrive dans 2 jours, samedi, là, qui est concentrée sur Assassin's Creed, et on devrait avoir, enfin, on aura les détails sur Assassin's Creed Mirage, qui est ce fameux Assassin's Creed Rift, qui est le nom de code, qui avait été commencé comme une extension à Valhalla, et puis qui est devenu un jeu à part entière, qui se concentre sur... Il s'appelle le c'est pas Bassim, je sais plus, le personnage de Valhalla qui retourne au Moyen-Orient, donc, et c'est un petit peu plus proche des Assassin's Creed de l'époque, des premiers. Donc bref, beaucoup de choses. Tencent qui investit. Moi, j'étais surpris de, je me disais, ça y est, Guillemot va prendre sa retraite, et en fait non, c'est du poil de la bête qu'il reprend et il continue, quoi. Moi, j'étais surpris, franchement.
Bah, en fait, surtout, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que la nuance que tu as mise en expliquant un peu les différentes. Le fait de savoir précisément où les voix ont été achetées et le pourcentage de vote et de, enfin, la puissance que ça leur apporte réellement. J'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de sites qui se sont un peu rués sur l'information, qui ont fait des titres putaclic, comme on dit, pour faire parler d'eux, mais qu'au final, c'est moins inquiétant que ça en a l'air. Après, je sais pas si toi, c'est ton cas aussi. Moi, c'est vrai que le mot Tencent, ça me fait toujours un peu peur. C'est pas une entreprise...
c'est une entreprise chinoise qui investit partout et qui a des petites parts partout et qui investit dans de plus en plus de studios en Occident. Mais,
ils ont des parts
de tout, quoi. C'est comme NetEase.
Je sais pas si tu sais, parce que du coup, eux, ils sont devenus actionnaires majoritaires, notamment de Riot et à 40% d'Epic Games. Mm-hmm. Je ne sais pas comment en interne...
Riot, c'est 100% à Tencent, hein, si je ne me trompe pas.
C'est 100%, c'est même plus... Enfin, du coup, ça reste majoritaire, mais c'est pas plus que majoritaire.
Totalitaire.
Et je sais pas, j'ai pas vu de choses passer sur comment ça se passe en interne. Est-ce que la vie des employés a changé? Si c'est le cas en bien, en mal?
Alors, Riot, c'est particulier. Moi, je les connais un tout petit peu. C'est particulier. D'après ce que je comprends, ils les laissent tranquilles. Et d'après ce que je comprends, dans tous les petits investissements, ils laissent les gens tranquilles. Là, les Guillemots ont en plus architecturé la chose pour être sûr d'être laissés tranquilles. Donc, ouais. Mais bon, disons que Ubisoft a eu beaucoup de problèmes dont on a beaucoup parlé ces dernières années. Je ne sais pas si ça a une influence là-dessus. Moi, ça ne m'inquiète pas. Il n'y a pas d'inquiétude de la direction que va donner Tencent à Ubisoft. Déjà, il n'y a pas vraiment d'exemple qui montrerait que ça soit inquiétant à la base, mais je ne pense pas que Tencent va profiter de cet investissement pour dire « faut plus faire d'Assassin's Creed », par exemple. Tu vois, Ubisoft, ils ont déjà réussi à faire des trucs intéressants, des trucs moins intéressants. Ils se débrouillent très bien eux-mêmes pour faire des choses inquiétantes par eux-mêmes, on va dire.
Ouais, donc, parce que le rachat de Riot par Tencent, ça remonte déjà à plusieurs années maintenant.
Alors, il y a eu un rachat il y a bien longtemps, mais le rachat, c'était une prise de position majoritaire ou minoritaire. Mais là, c'était il y a 3 ans, 4 ans, le rachat complet. Je ne me souviens plus exactement, mais ça s'est fait en deux temps, quoi.
Ouais, j'essaie de regarder et de retrouver l'info vite fait sur Google, mais a priori, ça faisait déjà quasiment 10 ans qu'ils avaient une grande majorité.
Investi dans la boîte, ouais.
Tu vois, là, je vois rachat à 93% de Riot Games en 2011. Mmh. Et tu vois, enfin, on regarde ce qu'a fait Riot ces dernières années, c'est quand même canon, quoi. Enfin.
Ouais, bah oui. Donc, mais encore une fois, Riot, c'est tellement particulier, ils font tellement d'argent. Riot, c'est un truc... Ubisoft, tu vois, est dans une position où je ne suis pas sûr qu'on pourrait dire « Continuez ce que vous faites, nous, on ferme les yeux, vous faites ce que vous voulez. » Riot, ils sont pas vraiment plantés et ils engrangent des millions et des millions, donc tu ne touches pas à cette recette. Il n'y a pas de raison. Ubisoft, il y a des raisons de toucher. La plupart des autres développeurs, il y a des raisons de toucher. Donc, bon, je ne sais pas. On verra ce qu'ils font. Là, en tout cas, ça a l'air d'être... comme je le disais, ils n'ont pas le choix. La question, c'est qu'est-ce qui va se passer dans quelques années si les choses évoluent, mais bon.
C'est le jeu moment, quand tu rentres en bourse. Hein.
Complètement, enfin, oui.
C'est après, il faut aussi accepter que quand tu rentres en bourse, ça peut arriver.
Ouais.
Voilà.
C'est vrai. Voilà pour Ubisoft et donc pour cette partie Microsoft. Et du coup, on va arriver à la partie où on parle des jeux auxquels on a joué en ce moment. Mais avant Patreon, patreon.com/rdvjeux, vous savez que, je vais le dire très très vite, si vous appréciez l'émission, patreon.com/rdvjeux, vous avez des bonus, les émissions sans pub, les timecodes, les contenus bonus, etc., etc. Et si vous aimez bien ce qu'on fait, et ben vous pouvez nous soutenir. Quelle merveille! On peut soutenir les gens qu'on apprécie, les créateurs de contenu, patreon.com/rdvjeux. Le lien est dans les notes de l'émission. Vous arrivez chez vous, ça fait cling quand vous mettez dans le bol, les clés dans le bol. Et là, vous dites, mais Patrick, patreon.com/rdvjeux. Merci à tous et à toutes.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et maintenant, c'est les jeux. Le petit truc à la fin, t'as apprécié, non? Bah moi, c'est le poip de Destiny. Alors, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous reparle de Destiny 2? J'ai eu ce week-end un moment de grâce où ma femme a pris les enfants à Helsinki, chez sa mère, et du coup, j'avais deux nuits où je pouvais faire absolument tout ce que je voulais. J'aurais pu, par exemple, jouer à Immortality, qui est sans doute l'un des jeux de l'année, et qui est disponible dans le Game Pass, et donc que j'avais directement accessible sur ma console ou mon PC. J'aurais pu jouer à Forbidden West, que je veux finir avant la fin de l'année. J'aimerais bien finir Forbidden West avant la fin de l'année. Et bien, qu'est-ce que j'ai fait ? Destiny 2. Des heures, et des heures, et des heures de Destiny 2. C'était un bonheur. J'ai tellement plus l'occasion de me plonger dans un jeu. Aujourd'hui, quand je joue, c'est une heure, deux heures, par-ci, par-là. J'ai plus l'occasion de jouer toute la journée, quoi, et de me coucher tard, et de faire un dernier strike, finir une quête, machin. Mais j'y ai joué en commençant à réfléchir à... on me demande, tu t'es arrêté à 4h du mat? Non, quand même, je me suis couché à minuit, il faut pas déconner. J'ai quand même les enfants qui reviennent deux jours plus tard, voilà. Mais... j'ai commencé à y jouer en réfléchissant à comment je pourrais expliquer Destiny 2 aux gens qui ne le connaissent pas. J'évoquais l'idée d'un épisode où j'expliquerais aux gens ce que c'est que Destiny 2 et comment rentrer dans le jeu, parce que au-delà de la plaisanterie, les gens me disent « Oh, on en a marre de Destiny 2, machin. » Ça va, je parle de ce que je veux, c'est mon émission et je joue à Destiny. Mais au-delà, je fais attention. Hein, je pourrais en parler tous les émissions, deux heures par semaine. Je pourrais faire un podcast sur Destiny 2. À l'époque d'Azeroth.fr, on faisait ça sur World of Warcraft. Donc bon. Mais en fait, j'y pense, c'est vraiment, on rigole, mais c'est vraiment un jeu qui est fun. Et il est tellement difficile d'accès pour les gens qui ne sont pas déjà dans le truc, mais moi il m'a fallu un ou deux jours pour recomprendre comment ça marchait. Je me suis dit peut-être qu'un épisode spécial pour expliquer aux gens comment ça fonctionne, ça pourrait être sympa. Il y a des gens qui m'ont répondu ah ouais, ça serait sympa, moi j'aimerais bien rentrer dedans. Et du coup, j'y joue en me disant bon, comment je pourrais expliquer ce que... Parce que vraiment, le jeu, il est super fun. Et c'est dommage qu'il y ait des gens qui soient bloqués à l'entrée, quoi. Donc, mais oui, du coup, moi, c'était Destiny 2 toute la journée. Donc, j'en ai déjà parlé. Je vais m'arrêter là pour pas que les gens commencent à sortir les pioches et les fourches.
Les fourches, ouais. C'est ça.
Mais toi, tu as joué à Triangle Strategy. On en a dit beaucoup de bien
oui.
ces dernières semaines et derniers mois. T'es plongé dedans.
Ouais, tout à fait. En fait, je savais que j'allais partir un mois en vacances et que j'allais avoir un petit peu de temps pour jouer, donc je cherchais un jeu qui soit faisable en une trentaine d'heures, un bon jeu récent si possible, et du coup j'ai été sonder Twitter et le nom de Triangle Strategy est très régulièrement revenu. Alors je t'avouerai que si on me l'avait pas conseillé, j'y aurais pas pensé, parce que moi, je me disais, c'est par les créateurs d'Octopath Traveler, c'est encore un jeu qui va demander entre 80 et 100 heures, c'est un tactical RPG, donc ça va être difficile, pas abordable, et en plus, c'est japonais, et moi, les jeux japonais, plus ça avance et plus j'ai du mal. Et je me suis dit, je vais écouter les conseils qu'on me donne, j'y vais. Et j'ai eu raison, les gens ont eu raison de me le conseiller. Donc, c'est effectivement un jeu qui se fait sur une petite trentaine d'heures. Alors moi, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait un tactical. Et un tactical en entier, je ne me rappelle même pas en avoir fait un. Si j'oublie les expériences à la... ça y est, je n'ai plus le nom. Ce petit tactical là qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, avec des extraterrestres, et on doit battre des petits extraterrestres en pixel art. Ah, j'ai plus le nom. Le chat va retrouver.
Des extraterrestres en pixel art, ok.
Ouais, un très récent là qui est sorti il y a 3-4 ans. Bon, les gens dans le chat trouveront et je le dirai tout à l'heure.
Okay.
Et donc en fait, tu joues le rôle d'un jeune seigneur dans un monde médiéval fantastique qui est séparé en trois contrées, on va dire. Il y a trois royaumes qui se font la guerre et qui font particulièrement la guerre autour d'une ressource très rare qui est le sel. Oui, c'est Into the Breach, merci, dans le chat,
auquel je faisais référence. Oui. Ah oui, c'est tellement, on était tellement loin du Japon et des... Ok, mais...
Oui. Sauf si, avec les kaiju, finalement, on n'est pas si...
Ok, très bien.
Mais voilà, donc à part Into the Breach, c'est vraiment pas un genre auquel j'ai l'habitude de jouer ou pour lequel j'ai une appétence vraiment poussée, quoi. Donc tu as ces trois royaumes, d'où le terme triangle stratégie, et en gros les trois royaumes se font la guerre. La petite particularité de ce jeu, on m'a dit que c'était très proche de Tactics Ogre, donc en fait ce n'est pas un tactical où tu vas déplacer des troupes sur une carte en vue de conquérir ou détruire tes ennemis. En fait, tu as un groupe de personnages qui ont chacun leurs compétences. Donc, tu vas avoir des guerriers, tu vas avoir des soigneurs, des mages. Chaque personnage est unique. Il y en a une vingtaine de mémoire, entre 20 et 30. Chaque personnage fait partie de l'histoire, est intégré à l'histoire dans le scénario. Et tu vas pouvoir, en les utilisant, leur faire prendre de l'expérience, gagner des niveaux, débloquer des nouveaux sorts, etc. Donc, c'est pas un système de troupes, c'est vraiment un système de ta compagnie de personnages. Et chaque combat, en fait, c'est un peu comme un RPG. Du coup, tu as un combat au tour par tour et tu vas déplacer tes personnages sur un damier. Donc là, on est vraiment dans le pur tactical, et utiliser leur pouvoir comme dans un petit RPG, lancer des sorts, lancer des attaques au corps à corps, etc. La grosse particularité de ce jeu, c'est le scénario, puisque en fait, t'as des choix à faire dans le scénario qui t'amènent dans des embranchements radicalement différents de l'histoire, ce qui du coup donne un caractère important au New Game Plus. J'ai vu pas mal de gens sur Twitter qui me disaient que ça faisait partie des rares jeux sur lesquels ils avaient eu plaisir à faire du New Game Plus, et je les comprends, parce qu'en fait, quand tu termines, là on voit la balance sur le trailer que tu es en train de diffuser, quand tu termines le jeu, tu penses à tous les embranchements de l'histoire que tu n'as pas fait et qui t'auraient amené à des possibilités complètement différentes, et t'as qu'une envie, c'est de reprendre le jeu du début et de tester ces autres embranchements. Alors t'as notamment ce qu'ils appellent une Golden Route, qui est un peu le scénario parfait. Tu peux facilement trouver sur internet quoi faire pour faire cette Golden Route et avoir l'histoire, j'imagine, la plus satisfaisante possible pour tes personnages. Donc moi, je vais refaire, je pense, le jeu en suivant la... Je pense que je vais le refaire en suivant la Golden Route pour voir un petit peu ce que ça aurait donné. Et donc voilà, et donc t'as effectivement ce système de balance. En fait, ce qui se passe, c'est que donc tu incarnes Serenor Wolfort, qui est en gros donc le prince d'un des royaumes les plus importants de sa contrée, et en fait de fil en aiguille, là où toutes les contrées sont à peu près en alliance au début, elles finissent par se taper dessus, et donc tu dois choisir avec qui tu forges tes alliances et comment tu assois ta domination sur le commerce du sel, qui est donc et c'est cette ressource, personne ne peut vivre sans du sel. Tu sais bien que tous les mets sans sel sont fades. mais en plus de ça, en fait, on apprend dans l'histoire que tu peux te servir du sel pour faire fabriquer des armes. Donc c'est pas tout à fait le sel de Guérande tel que nous on le connaît.
Le sel, ça va, c'est pas tant pour assaisonner que pour conserver les aliments. C'est pour ça que c'est important.
Il y a ça, mais bon. Ça a aussi
surtout pour les armes,
magiques.
Évidemment. Les épées en sel sont clairement les plus solides qu'on puisse imaginer. On est d'accord.
Oui, ressource très importante aussi pour les débats animés sur Internet, le sel.
Ah ben alors ça, franchement, je suis surpris qu'on puisse le trouver si bon marché, parce que Dieu sait qu'on en utilise.
Donc en fait, t'as un système qui est vraiment spécifique, un petit système de gameplay dans le jeu. Quand t'as une décision à prendre entre est-ce qu'on fait ce choix-là ou ce choix-là, et parfois t'as même trois choix possibles, en gros, ton personnage va devoir utiliser d'influence auprès des autres personnages de l'équipe pour convaincre les gens de faire plutôt tel ou tel choix. Donc par exemple, j'en sais rien, si ton choix c'est faire la guerre ou faire la paix, bah toi, en tant que joueur, tu vas plutôt te dire « bah moi j'aimerais bien faire la paix », et en fait tu te rends compte que dans les 12 personnages principaux de l'histoire, il y en a 6 qui veulent faire la paix, 6 qui veulent faire la guerre. Et donc, tu vas devoir individuellement aller voir les personnages dont tu veux changer la vie pour trouver les bons éléments de dialogue qui vont les faire changer d'avis. Et surtout, tu as un système d'influence dans le jeu qui varie en fonction de tes actions. Et c'est un système d'influence qui est caché, qui va te permettre de réussir à faire basculer la vie de tes copains. Donc, c'est un système qui est assez chouette, mais qui peut aussi être frustrant parce que des fois, tu n'arrives pas à convaincre des gens de ton équipe et c'est compliqué de comprendre pourquoi. Ça veut dire que tu as fait des choses dans le jeu qui font que tu n'arrives pas à avoir les points d'influence pour convaincre les gens. Et donc, des fois, le jeu t'amène à des choix qui ne sont pas les tiens en tant que joueur, mais qui sont les choix de l'équipe. Et donc, tu es amené parfois, malgré toi, à suivre une certaine forme d'histoire qui ne t'aurait pas forcément convenu, d'où aussi l'intérêt de refaire le New Game Plus, parce que quand tu fais le New Game Plus, tu as accès en clair à tes niveaux d'influence, et donc tu peux plus facilement faire les bonnes actions pour gagner des points d'influence dans certains types d'influence, et donc pouvoir faire vraiment les choix que tu aurais voulu faire dans ta première partie. Voilà.
D'accord. Donc tout ça, c'est pour la partie histoire, les choix, tout ça qui ont l'air
voilà,
assez...
Voilà, la partie RPG.
C'est bien écrit, c'est intéressant, t'as des surprises, alors, t'as des émotions...
C'est très bien écrit, c'est très verbeux. Ça, c'est un des principaux reproches qui est fait au jeu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens au début qui m'avaient dit « Ah, Triangle Strategy, c'est super !» Et quand j'ai commencé à y jouer, il y en a qui m'ont dit « Oh là là, bon courage !» C'est vraiment des centaines d'heures de lecture. Je me disais « Mon Dieu, dans quoi je me suis lancée ?» Au final, moi, j'ai trouvé que c'était très bien équilibré. La part de scénario par rapport à la part de bataille, je me suis vraiment jamais ennuyée. Il y a des rebondissements tout le temps. Mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le tactical tel qu'on imagine, où c'est des centaines de combats. Au final, t'as pas tant de combats que ça, je trouve, dans le jeu. Donc il faut effectivement s'attendre quand même à... C'est vraiment la partie RPG, elle est très importante. C'est beaucoup de dialogues, beaucoup d'histoires, et pas tant que ça de combats. Donc ça peut surprendre. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai été prise dans l'histoire. Visuellement, c'est très mignon, là, cet aspect qui avait été un peu découvert avec Octopath Traveler. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a un terme pour ce... Ouais, c'est ça, 2DHD. C'est très mignon. Voilà. Après, je trouve malheureusement que le côté japonais fait qu'on ne s'écarte pas de certains clichés scénaristiques et dans le chara-design et tout. Mais bon, c'est comme ça qu'il faut l'accepter.
Mais t'as pas du tout parlé de gameplay, du coup.
Non, bah, alors vraiment, c'est tu fais combattre ta troupe de personnages contre une troupe de personnages ennemis. Tu déplaces chaque personnage sur un damier et chaque personnage lance des sorts ou des attaques au corps à corps. Tu vas avoir des personnages qui sont plutôt tanky, des personnages plutôt mages. T'as un petit inventaire de personnages à gérer, donc tu peux leur mettre des amulettes, des trucs comme ça. Donc un petit peu comme dans un Final Fantasy au final. Hein, c'est faut pas oublier que ça reste un jeu Square Enix. Y a pas vraiment grand chose de plus à dire au niveau du gameplay.
Tu as
des phases de combat,
enfin tactical RPG classique.
Voilà, tu as des phases de combat et des phases où tu déplaces tes personnages sur des petites maps. C'est pas du tout du monde ouvert, c'est complètement fermé, complètement couloir, complètement scénarisé. Et tu vas déplacer, tu vas avoir des phases d'enquête, entre guillemets, où tu vas déplacer ton personnage sur une map pour aller ouvrir des coffres, looter quelques petits objets et surtout aller parler aux PNJ pour prendre connaissance d'informations qui vont te permettre de débloquer des possibilités de dialogue caché, donc très important. Mais voilà, outre ces deux phases de gameplay, ça reste malgré tout assez classique, quoi.
D'accord. Bon, donc un bon petit jeu Switch qui était, dont tu confirmes la qualité qu'on avait déjà évoquée les mois précédents.
Faisable en, voilà, faisable en une petite trentaine d'heures et c'est, tu peux faire des sessions assez courtes de jeu, donc pour les darons, c'est super.
Ah, effectivement, c'est important à noter, oui. Super, bah, en plus c'est conçu comme ça pour la Switch, c'est malin. Il y a deux jeux qui sont sortis, on n'y a pas vraiment joué, mais je vais les évoquer pour, enfin qui sont sortis, dont les tests sont sortis. Steel Rising, dont bah, on va faire un petit shortcut et dire le score métacritique, c'est 73. Vous vous souvenez, Steel Rising, c'est ce jeu de Spiders qui est esthétiquement vraiment intéressant. Qui est une sorte de Souls-like dans la révolution avec des automates. Et c'est... Bon, enfin, Souls-like, c'est plutôt le gameplay. Visiblement, il est, c'est le genre de jeu qui ne va pas séduire tout le monde, mais je peux imaginer que certains pourront en tomber amoureux. Je me demande si le monde entier n'a pas les yeux rivés sur Lies of P, aujourd'hui, qui est encore hyper... comment dire ? C'est un petit peu facile parce qu'on a vu que des trailers et c'est un peu moins concret, on va dire. Mais je crois que tout le monde a les yeux rivés sur Lies of P. Et du coup, bon, ça dessert peut-être un petit peu Steel Rising, mais il est disponible. Et l'autre, c'est Splatoon, dont les tests sont arrivés, dont le jeu arrive demain, je crois. Et Splatoon 3, bah, il semblerait que ça soit un bon Splatoon qui est un Splatoon. Et du coup, bah voilà, Splatoon, c'est Splatoon. Splatoon 2, c'était déjà un petit peu Splatoon 1. Et Splatoon 3, c'est un petit peu Splatoon 2. Donc, bah, c'est un jeu FPS compétitif, un TPS compétitif, avec de la peinture, donc adapté aux plus jeunes. Mais ça ressemble à un truc qui est cool, mais qui est cool comme le 2 était cool et comme le 1 était cool. Donc voilà.
Oui, c'est un peu comme les Mario Kart, quoi.
Ah voilà, exactement, oui.
Et alors, juste pour revenir sur Steel Rising, ouais. Alors moi, j'en avais jamais entendu parler avant de lire le dernier numéro de JV Le Mag. Et quand j'ai vu, je me suis dit, ouais, ça a l'air, visuellement, ça a l'air super chouette. En plus, Spiders, je trouve que c'est un studio qui fait des jeux... j'avais bien aimé Gridfall, c'était pas incroyable, mais je trouve que pour un studio français, ils s'en sortent plutôt bien et ils proposent des univers qui sont assez originaux.
Ouais. Et esthétiquement ambitieux, enfin il y a du il y a du travail, quoi.
Alors par contre, je savais pas que c'était un Souls-like, je pensais que c'était plutôt un action RPG donc j'avoue que je suis un peu déçue du coup. Et par contre, tu dis que du coup, c'est éclipsé par les annonces qui ont été faites autour de Lies of P, mais parce que ça, visuellement, c'est un peu le même genre d'univers.
Non, ce qu'il y a, c'est que... Non, bon, je suppute, hein, j'en sais rien du tout, mais c'est juste que Lies of P a fait beaucoup de bruit et c'est un petit peu... c'est tellement proche de Bloodborne que tous les fans... J'ai l'impression que les fans de Souls-like sont maintenant tournés vers Lies of P et ils voient plus rien d'autre, tu vois, alors qu'ils auraient peut-être été un petit peu plus séduits, ils auraient pu être un peu plus séduits par celui-ci s'il n'y avait pas eu Lies of P à côté pour leur attirer le regard. Mais c'est juste, tu vois, j'en sais rien, il n'y a rien de factuel là-dedans, c'est juste que je me dis, ah, peut-être que les gens n'y prêtent pas trop attention pour cette raison, tu vois.
Ah, ouais, après, Lies of P, il est pas encore sorti.
Ah non, pas du tout, non, c'est 2023, Lies of P, je crois. C'est juste qu'il il y a eu des nouveaux trailers et des nouveaux mini-extraits de gameplay à la Gamescom et à Opening Night Live. Donc, il est un peu plus dans l'actu, tu vois.
Ouais.
Alors que l'univers de Steel Rising a l'air vraiment cool, quoi. La révolution Qui est un truc en plus qui nous parle à nous, mais la révolution avec ces automates, je suis très curieux de le voir. Et c'est le genre de jeu, s'il était dans le Game Pass, je le testerais, tu vois, je le lancerais pour voir ce que ça donne, parce que je suis vraiment intrigué par le truc, quoi.
Après, je sais pas trop si c'est une thématique qui s'exporte bien à l'étranger. La Révolution française, enfin, tu vois, c'est quand même...
Ouais. Ça, je saurais pas te dire. Il sort aujourd'hui, visiblement, on me dit. Donc,
ouais, c'est ça.
C'était pas hier. C'est les tests qui sont sortis hier et le jeu sort aujourd'hui. Bon, on en parlera peut-être plus un jour à venir. Quoi d'autre ? Bah écoutez, c'est tout pour les jeux du moment et donc le reste de l'actu. Lightning Round avec toute l'actu qui reste. D'abord... Steam Deck, il y aura des nouveaux Steam Deck avec peut-être possiblement un focus sur le streaming, mais pas vraiment, ça a été démenti ensuite. Enfin bon, ce qu'il en ressort, c'est que Valve étudie très sérieusement la possibilité de développer d'autres Steam Deck. Ils veulent... Pardon ?
Alors ?
Ils ne veulent peut-être pas... Là, je me suis couché tard pour couvrir la keynote d'Apple hier. Hein.
Non, tu t'es couché à 4 heures pour jouer à Destiny 2, on a tous couru.
Damned ! Je me suis découvert. Ils ne veulent peut-être pas ralentir les ventes du Steam Deck actuel, donc ils ont dit non, mais en fait, ça va. Mais il y a d'autres Steam Deck. Et puis surtout, il y a la nouvelle PlayStation 5 dont on parlait les semaines précédentes. Enfin, la nouvelle, c'est juste un redesign des éléments thermiques et même de la carte mère. En gros, ce qu'il en ressort, c'est qu'elle tire un peu moins d'énergie. Elle a 20 watts de moins. Elle nécessite 20 watts de moins pour fonctionner, donc un petit peu moins d'énergie. Elle coûte très certainement moins cher que les PlayStation précédentes à faire. Mais bon, c'est des révisions mineures. Hein. Une PlayStation 5 reste une PlayStation 5. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées sur PS5, comme le 1440p natif et ce genre de choses. Une nouvelle mise à jour, c'est surtout le 1440p qui peut être intéressant pour des gens qui branchent leur PlayStation sur des moniteurs. J'ai vu que JK avait un souci, ceci dit, à afficher le 1440p, mais a priori, ça devrait fonctionner. Et puis, il y a un petit push sur God of War Ragnarok, un petit push marketing avec, c'est Game Informer, je crois, le magazine papier aux États-Unis, qui a aussi, bien sûr, un site web, et qui a eu une exclue sur des infos sur God of War. Il n'y a rien d'incroyable, mais c'est quasiment les premières images qu'on voit de gameplay de God of War Ragnarok. Je dirais deux choses. Je suis surpris qu'on n'ait pas eu une grosse présentation avant qu'il ne file l'exclu à Game Informer. C'est vraiment une grosse fleur qui leur est filée.
Mmh, c'est clair.
Vraiment, vraiment important. Et la deuxième chose, c'est que... la première chose, c'est vraiment... Mais où est le State of Play, quoi ? Enfin, le PlayStation Showcase. Et une fois qu'Apple aura fini son truc, la semaine d'après, ils vont faire le Showcase, parce qu'il faut... Enfin, on est à quoi ? 2 mois de la sortie de God of War Ragnarok ? On a vu quelques images par Game Informer, mais on connaît rien du jeu. Bon, maintenant, oui, on connaît avec Game Informer un tout petit peu, mais je suis vraiment surpris qu'ils n'en aient pas parlé plus. Et l'autre chose... c'est que c'est un petit peu ce que je disais avec Splatoon, ça ressemble à God of War, quoi. C'est God of War le premier, plus de niveaux. Alors peut-être que j'ai un souvenir ému de la version PS4 et que en fait elle était un peu plus moche, et la version là qui sort aussi sur PS4 d'ailleurs est en fait bien plus belle. J'ai pas l'impression, mais faut pas s'attendre à quelque chose. Et bon, c'est la discussion qu'on a à chaque fois qu'il y a un 2 qui arrive. Mais il ne faut pas s'attendre à quelque chose qui soit fondamentalement différent de ce qu'on a eu avec le premier, même s'il sera certainement très cool et j'y jouerai avec plaisir.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ça me fait un peu peur aussi le côté... en fait, on reprend la même chose et on vous a rajouté... C'est quoi ? C'est 3 royaumes, quelque chose comme ça ?
Ouais, et 2 boucliers. Voilà. Il y aura sûrement une arme en plus qu'ils ramèneront, mais qu'ils gardent secrète comme la deuxième, comme les chaînes dans le premier. Mais oui, c'est... Bon, en même temps... pardon, vas-y, continue. Mais c'est ce qu'on imagine toujours, quoi.
Bah, il y a rien de beaucoup plus à dire, mais c'est vrai que le jeu nous avait mis tellement une claque et puis repartait tellement de zéro sur les univers exploités par rapport à l'ancien God of War, que je pense qu'on s'attendait tous ou on aurait tous beaucoup aimé que God of War 2 soit dans un univers radicalement différent et pas qu'on retourne dans l'univers de Pouille.
Déjà, pour ceux qui ont fait le 1, on savait qu'on resterait là pour le 2. Mais,
oui, mais sans ensuite, spoiler. Tu sais,
mais... Oui, mais ensuite, le truc, c'est que tu ne peux pas développer un jeu, ça coûte tellement cher à développer, et puis ensuite, n'exploiter ce que tu as développé pour ce jeu que pour un seul jeu. Il faut au moins faire une suite, et tu vas bien sûr retravailler dessus, mais exploiter un petit peu plus ce que tu as déjà fait. Ne serait-ce que le moteur, le système de gameplay, l'agrémenter, mais... Par contre, ils ont dit que ça serait le deuxième, ça sera le dernier dans cette saga, avec une logique qui est logique, c'est qu'il leur faut 4-5 ans pour développer un jeu, donc ils ne veulent pas qu'une saga soit une trilogie et qu'il faille 15 ans pour avoir accès à tous les trucs. Ça serait, ouais. Ça serait un peu long. Bref. Donc ça, c'est God of War.
Alors, j'avais juste une petite question très rapide. Je reviens juste sur le Steam Deck. On en est où des ventes aujourd'hui, tu le sais ou pas ?
On n'a pas les chiffres, à moins que je me trompe, mais je ne crois pas qu'on ait les chiffres, mais ça se vend très bien et les gens adorent le truc. Hein, donc, ah oui, ça se passe très bien pour Steam. J'ose même imaginer au doigt mouillé que ça se passe mieux qu'ils ne le pensaient.
D'accord, ok.
J'ai l'impression qu'ils sont très très contents, oui.
Moi, je n'ai rencontré qu'un seul utilisateur du Steam Deck en vrai. Enfin, j'ai pu voir qu'une seule fois en vrai, c'était Per Castor, et il en était très content.
Ouais. Oui, oui, il y a beaucoup de gens qui en reparlent au bout de quelques mois, qui disent « Ah, c'est ma console préférée, j'adore, j'y joue tout le temps, j'utilise tout le temps, machin. » Donc, ouais, c'est un succès.
Tant mieux. Tant mieux.
Microsoft décline aussi le succès de sa Xbox Elite Series. Alors, on parle de la manette, hein. Manette Xbox Elite Series 2, qui est désormais déclinée en une version Core. C'est quoi Core ? C'est le cœur, c'est l'essentiel. Et c'est donc uniquement la manette sans les accessoires. C'est pas bête. C'est la manette, alors on peut régler l'arrêt. On peut mettre un arrêt aux gâchettes. On peut régler la résistance des manettes, ce genre de choses. Et si on veut, on peut acheter des accessoires en plus pour à peine plus cher que si on avait acheté le pack d'un coup. Parce que la Xbox Series 2, le contrôleur Series 2, a tout un tas d'accessoires qui viennent avec. On peut acheter des accessoires en plus après, si on le souhaite. Mais c'est pas bête, ça la rend plus accessible. Moi, comme je le disais, je trouve que elle est mieux, mais je suis pas sûr qu'elle vaille son prix. Est-ce qu'elle le vaut plus à 130 euros qu'à 180 ? C'est possible. C'est possible. Elle est très bien en tout cas. Et...
Moi, j'ai la toute première, la première Elite qui était sortie il y a peut-être 5 ans de ça maintenant, peut-être même un petit peu plus, et j'en suis super contente. J'utilise pour jouer à la manette sur PC. Alors, c'est un peu overkill parce que vu mon PC, je suis rarement sur des jeux dernière gen sur PC, mais le jour où la crise des composants, bref. Et franchement, alors à l'époque, quand je l'avais payé, je m'étais dit vraiment, je me fais un petit plaisir parce qu'effectivement, c'est quasiment le double du prix d'une manette standard. Mais je trouve que le confort de prise en main, le fait de pouvoir changer effectivement les petites gâchettes, etc., elle est quand même pleine de features très très chouettes, cette manette. C'est sûr. Et je te dis, ça fait plus de 5 ans que je l'ai. Et j'ai rien à redire. Contrairement aux premières manettes Xbox, elle n'a pas les bugs de hardware qu'elle avait, qu'on a connus avec les joysticks, là, sur les vieilles manettes, pour ceux qui se rappellent. Vraiment un achat coup de cœur. Je suis très contente de l'avoir acheté, cette manette.
Je suis assez content de la mienne aussi. Elle est vraiment de très bonne qualité. On me demande, est-ce que c'est utile pour Street Fighter X ? Street Fighter, tu veux dire X Super Street Fighter. Moi, j'ai pas réussi à battre Danny, qui est tellement plus fort que moi à tous les jeux de combat, que je dirais non, c'est pas hyper utile. Enfin, ça donne pas un avantage substantiel. Mais il faut avouer que quoi que j'utilise, je serais pas vraiment capable de battre Danny à des jeux de combat tellement il est fort lui.
C'est ton petit cadeau d'anniversaire en retard, c'est ça.
Profitez-en bien, ça ne se reproduira jamais. Quoi d'autre ? Game Pass, il y a Disney Dreamlight Valley. Voilà à quoi je devrais jouer au lieu de jouer à Destiny. Il avait l'air super mignon, ce jeu. cet explorateur de monde de Disney et de vie et de Sims. Il est visiblement pas trop mal, mais il faudrait mieux le terminer. Mais il y a des choses sympas qui arrivent sur le Game Pass en septembre en plus de ça, comme Metal Hellsinger qui a l'air d'être un FPS de rythme. Il y en avait un que j'avais beaucoup aimé il y a un an, qui arrive aussi le 15 septembre. Ariami 2 également, que je voudrais tester, mais enfin bon. Tellement de trucs. A Plague Tale Innocence, qui est le premier épisode de A Plague Tale, le Requiem, arrive bientôt, si je ne me trompe pas. Donc, bref, il y a Skatebird, il y a plein de trucs.
C'est ceux qui partent.
Ouais. Tu vois, qu'est-ce que je raconte ? C'est ceux qui partent, donc je vous dis des bêtises, pardon. Autant
qu'il faut absolument que tu fasses Plague Tale si tu ne l'as pas encore.
Je l'avais commencé et puis j'ai dû m'interrompre. Metal Hellsinger, par contre, c'est bien un jeu qui arrive, hein, je ne me suis pas trompé. Donc, oui. Mais Plague Tale, oui, tout le monde en dit beaucoup de bien, il faudrait que, je prenne le temps. La news spéciale Kassim, Konami a renouvelé le trademark de Suikoden en amont du Tokyo Game Show. Donc, étant donné qu'il y a le... Merde, comment il s'appelle ? J'ai un trou. Le 100 Heroes Eiyuden Chronicles qui va arriver aussi. Les fans de Suikoden auront le choix. Ça se trouve, alors c'est peut-être que des remakes, mais peut-être qu'ils vont faire des nouveaux jeux Suikoden. Bon, on s'inquiète un peu de ce que fait Konami, mais voilà. Y a aussi des leaks d'images d'un remake de Silent Hill 2, possiblement le jeu développé par Bloober Team. Merci à la chatroom d'avoir lié ça, mais ça a l'air un peu... Enfin, c'est pas certain. Quoi d'autre ? La première extension et dernière extension de Cyberpunk qui s'appelle Phantom Liberty arrivera en 2023. J'ai beaucoup aimé la communication de CD Projekt à ce sujet. Ils ont annoncé l'extension et ils ont dit, genre deux jours plus tard, il n'y aura pas d'autre extension. C'est fini, on va mettre ce jeu de côté, on ne va plus en parler.
Oh là là, quelle tristesse. Alors, j'ai pas compris si elle était gratuite ou pas, cette extension.
Je ne crois pas, non. C'est un
parce
truc
que...
payant.
Alors de là, mémoire, la première extension de Witcher 3 était gratuite, non ?
C'était Blood and Wine, ou ça, c'était peut-être pas la première ? C'est possible. Écoute, je ne
sais
pas. C'est
payant.
Oui, je crois bien que c'est payant, oui. Je crois que c'est payant.
Mais tu vois, j'étais persuadée qu'il y avait au moins un des deux DLC de Witcher 3 qui était gratuit. Bon, bah c'est...
Je crois qu'il y en a un payant et un gratuit pour Witcher 3. Je crois que tu as raison. Mais celui-là, je crois bien qu'il est payant, oui. Bah, ils vont en faire qu'un seul, et puis je crois qu'ils veulent tourner la page, quoi. Ça, c'est sûr.
Quelle tristesse.
Y a plein de gens qui adorent Cyberpunk.
Ah, mais non, mais justement, c'est parce que j'adore ce jeu que je trouve que c'est
triste.
Ah oui,
tu fais partie des...
comme ça, quoi.
Des adeptes.
Ah bah moi, j'ai adoré. J'ai adoré.
Très bien. Effectivement, c'est réservé à la next gen pour les consoles. Il n'y aura pas l'extension disponible sur les versions PS4 et Xbox One. Ils ont décidé d'abréger leur souffrance.
C'est
pour ce jeu sur ces consoles. Un nouveau trailer de Hogwarts Legacy qui, là encore, est quand même assez cool et qui me. C'est vraiment. Je crois que c'est le mot qui me vient à chaque fois que je vois des images du jeu, c'est l'ambition. Qu'ils ont eu, c'est vraiment, je crois qu'on avait même titré là-dessus, c'est Hogwarts Legacy, l'ambition. Bon, à voir ce que donnera le jeu, mais je comprends pas pourquoi pour la Gamescom ils ont fait des trailers aussi pourris, alors que là, ça a l'air intéressant ce jeu-là. Je suis curieux de voir quand même ce qu'on va y faire, parce qu'il y a l'air d'y avoir tellement de choses à faire et tellement d'endroits à explorer et tellement de... Enfin bon, à voir.
J'ai l'impression qu'ils n'ont jamais été très bons sur la communication des jeux autour de la licence Harry Potter.
Écoute, il n'y a peut-être jamais vraiment eu de bons jeux Harry Potter, c'est peut-être pour ça.
Peut-être non plus. Bah, y avait eu les Lego, quoi, comme toutes les licences.
Ouais.
Mais bon, est-ce qu'on peut appeler ça un bon jeu ?
Quoi d'autre ? On arrive vers la fin. Sonic Frontiers, écoute, le nouveau trailer de Sonic Frontiers, là encore, moi je trouve que ça fonctionne, ça m'a beaucoup intrigué. Je suis curieux de voir le jeu maintenant, alors qu'au départ, c'était, je crois qu'on disait ça déjà la semaine dernière, je ne sais plus quand j'en parlais, ou si c'était sur le Discord qu'on évoquait ça. Là où les premières images étaient vraiment, vraiment pas convaincantes, ici, ça a l'air plutôt cool, quoi. Alors, à voir si c'est le montage du trailer qui fonctionne, alors que le jeu sera plus proche de ce qu'on avait vu dans les premières vidéos. Mais là, ça a l'air cool, rapide, intéressant, des explorations et tout, donc...
Moi, j'avoue que c'est une licence, je comprends pas, surtout avec le revival de la 2D, du pixel art, pourquoi est-ce qu'ils s'acharnent à vouloir faire des jeux en 3D alors que ça marche si bien en 2D. Après, bon, c'est pas une licence...
L'un n'empêche pas l'autre, hein.
Non, mais moi, j'ai quand même l'impression que ça marche au global mieux en 2D qu'en 3D, non ? Que ce soit au niveau de la jouabilité, de l'impression de vitesse, enfin, je sais pas, je...
Bah, ils n'ont jamais réussi à en faire des bons en 3D, ça je suis d'accord, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Si ça se trouve, celui-là, il sera super.
Peut-être, mais moi j'avoue que quand je vois le trailer, ça ne me fait pas envie du tout. Quoi.
C'est pour une fois que je disais du bien de Sonic Frontiers.
Écoute, j'avais dit que le Steam Deck ne fonctionnerait pas, et tu m'as dit tout à l'heure que c'est le contraire qui est en train de se produire. Donc,
alors, on ne sait pas, on n'a pas les chiffres, hein, ça se trouve c'est... ça se trouve... Oh. On souhaite à Sonic Frontiers le succès du Steam Deck, quel qu'il soit.
Alors, tu t'avances pas beaucoup, là.
Non, c'est sûr. Et puis, Torchlight Infinite qui arrive bientôt en bêta fermée. Il y a une sortie en octobre. Alors, Torchlight Infinite, pour ceux qui ne savent pas, c'est le prochain jeu dans l'univers de Torchlight qui a été confié à un studio chinois après le ratage de Torchlight 3. Mais il est disponible donc sur PC et sur mobile. Alors, c'est un studio chinois, ils ont développé pour mobile. Si ça se trouve, ça sera un modèle économique qui ne sera pas forcément acceptable par les publics occidentaux. Donc, à voir. Mais si le modèle économique est cool, bah, le jeu a l'air quand même vachement sympa. Et si ça se trouve, ça pourrait pallier aux frustrations des gens qui ne sont pas entrés dans Diablo Immortal. Parce que franchement, quand je vois les images, là, j'ai l'impression d'un super hack and slash bien cartoon et bien péchu, et je suis un petit peu curieux de voir ce que ça va donner après ce trailer.
Ouais, c'est une licence que j'aime beaucoup, moi, Torchlight.
Licence qui était bonne à l'époque. Je crois que
ouais, bah, quand le premier est sorti, j'ai joué au 3, j'ai laissé tomber. J'avais adoré le 1, mais déjà le 2, je trouvais que ça s'essoufflait un petit peu. Mais bon, c'est dommage parce que quand on sait qui avait travaillé sur les premières moutures du jeu, forcément pour tous les amoureux de Diablo, c'était très prometteur, mais bon, c'est comme ça.
Ouais. Eh bien écoute, peut-être que celui-là sera le Diablo mobile qui nous convaincra. On attendra tes impressions dès sa sortie. Ton silence est révélateur.
Écoute, j'ai joué à Diablo Immortal, donc j'ai pas de raison de pas tester Torchlight Infinite. Non, franchement, je pense que par curiosité, il sort quand sur mobile ?
En octobre.
Eh ben, écoute.
Why not ?
Allons-y.
Il n'y aura rien d'autre à faire.
Je passerai quelques heures dessus pour te.
Merci.
Pour te faire un feedback avec grand plaisir.
Octobre, c'est un petit peu vidé, donc tu vois, de là qu'on était à Stormoctober ou Octoberpocalypse. Là, ça s'est un petit peu vidé. Il reste des choses, hein, mais on aura le temps de caser une ou deux heures de Torchlight Infinite. S'il est gratuit, hein, je te dirai pas qu'il faut que tu l'achètes. Je crois que c'est un jeu... Bah, c'est mobile, donc j'imagine que c'est gratuit, mais du coup, bon, bref. Le dernier trailer, c'est le trailer de Gotham Knights qui n'en finit plus. Enfin, c'est même pas un trailer, c'est un petit featuring, une featurette sur la Bat-Family. Qui a un peu humanisé les personnages, et du coup je me dis bon, peut-être que ça pourrait être intéressant. J'ai l'impression qu'à chaque épisode du rendez-vous jeu, je parle de Gotham Knights en disant oh, je sais pas, peut-être j'ai envie que ça soit bien, mais ça a pas l'air trop bon. Là, ça penche plus, un petit peu plus du côté oh, peut-être que ça peut être sympa machin, mais bon, je crois que c'est sans doute l'émission où vous avez le plus entendu parler de Gotham Knights alors que tout le monde se fout de ce jeu, et pour être honnête, je m'en fous un petit peu aussi, mais
j'aurais très envie que ce soit le nouveau Gardien de la Galaxie qu'on a eu en fin d'année dernière. Ce serait vraiment
alors,
canon.
Mais j'y crois pas du tout. Hein, alors là,
ouais.
Pas du
mais
tout.
C'est
du tout,
peut-être pour ça que tu y vas très méfiant. C'est peut-être qu'on voit tous les deux la même chose et qu'on a tous les deux très peur.
alors moi, j'aimerais que ça soit un Arkham, tu vois, un bon Arkham, mais c'est ça.
Ah oui, il y a ça aussi. Mais j'ai pas l'impression que ça se dirige par là quand même.
Ouais. Écoute, réponse le 21 octobre. Toi, tu joueras à Torchlight Infinite et moi, je jouerai à Gotham Knights. Je ne sais pas qui va y gagner. Mais tu vois, au moins, dans cette vidéo-là, ce qui montre, c'est le côté humain des personnages et leurs difficultés, leurs interactions quand ils ne sont pas en train de taper des méchants dans la ville, tu vois, quand ils se parlent en vraie personne. Donc, je me dis, il y a peut-être un côté écriture, un côté scénario derrière.
Comme dans Les Gardiens de la Galaxie, Patrick. Non, mais
Les Gardiens de la Galaxie, c'est 90% écriture et 10% du reste. Là, je crois que ça sera, tu vois, c'est l'inverse. Il y aura peut-être un petit peu d'écriture, mais je sais pas, on sera peut-être agréablement surpris. Je suis ouvert à la surprise, Escar.
Il faut, peut-être, sinon on ne serait pas là.
Bon, bah écoutez, je crois que c'est tout pour cet épisode du rendez-vous jeu. On n'a pas du tout fait moins d'une heure. Je crois que ça n'arrivera jamais. Mais c'était quand même un petit peu plus d'une heure, mais un petit peu plus d'une heure de plaisir partagé avec Esca. Merci d'avoir été avec moi. Est-ce que tu veux nous dire où on peut te retrouver sur Internet, dis-moi?
Oui, avec plaisir. J'ai bien noté mon petit devoir du coup pour Torchlight pour la prochaine émission.
Non, alors non, écoute, c'est pour octobre et tu n'es pas, je le dis clairement, il n'y a aucune obligation. Ça serait dommage si quelque chose arrivait à ton nom, comment ils disent, les mafieux, je ne sais pas. Mais non, bien sûr, je ne vais pas t'obliger à jouer à Torchlight.
Mais non, mais moi, je pense que c'est un bon petit devoir. D'accord. Moi, je le ferai avec plaisir. Si je préfère te donner mon avis sur Torchlight avant d'acheter Batman Arkham Knight. Enfin, c'est même plus comme ça que ça s'appelle.
C'est Gotham Knight.
Gotham Knight, plutôt que l'inverse. Je pense qu'en l'occurrence, c'est toi qui as le plus à perdre. En toute honnêteté, je te le dis tout de suite, Patrick.
Je me suis fait avoir, même net.
Donc, où est-ce qu'on peut me retrouver? Donc, dans le deuxième jeudi du mois prochain, est-ce que Torchlight Mobile sera sorti à ce moment-là? J'espère. Ce sera le 14 octobre, donc oui. Sinon, on me retrouve aussi sur KissMyGeek, sur Twitter, @Escarine_, et chez Super Gamerside, quand on réussira à se mettre d'accord sur nos emplois du temps, c'est un peu compliqué avec la rentrée, donc peut-être pas tout de suite.
Ça marche. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Esca. Le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Et pour ma part, vous le savez, notepatrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais. On a d'ailleurs, si vous appréciez les conférences Apple, j'ai mis, j'en parlais tout à l'heure, la couverture de la conférence en réaction à chaud qu'on a fait avec Guillaume dans le flux du rendez-vous tech. Ça devrait être déjà publié, je crois. Et du coup, vous pouvez écouter ça dure 2 heures. On aura mardi dans l'émission normale quelque chose d'un petit peu plus raisonnable. On en parlera avec de la manière habituelle, traditionnelle. Mais là, si vous voulez, l'audio sans coupure de notre débrief qui est venu juste après avec Guillaume de Nowtech, vous pouvez écouter sur le flux du rendez-vous tech. Et puis sinon, vous savez que je suis disponible partout sur tous les réseaux sociaux et que vous pouvez me retrouver également dans Super Laser Punch, pas Super Gamerside, mais Super Laser Punch, où on va couvrir She-Hulk épisode 3 et 4 demain, au moment d'enregistrer cette émission, donc vous l'aurez très très bientôt, avec Johan. Et c'est une série qui est plutôt cool, She-Hulk. Moi, j'aime bien. Et bien sûr, patreon.com/rdvjeux pour soutenir l'émission. Le lien est dans les notes de l'émission. Quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol. Vous savez, putain, les moucherons! Mais sérieux! Je l'ai raté. Ouais, rater une mouche, je peux comprendre, mais rater un moucheron, putain, je suis pas en forme.
Alors qu'Elon Musk vendait des lance-flammes il y a pas si longtemps que ça, c'est un dommage.
Mais voilà ce qu'il me faut. Qu'est-ce que je disais? Clean Patrick, les clés dans le bol, vous allez sur patreon.com/rdvjeux, merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao à tous et à toutes.
Des bisous.
Est-ce que je mets le jingle à la fin ou pas? Qu'est-ce que tu penses?
D'habitude, tu le fais, si je dis pas de bêtises.
Allez, on y va. Je sais super bien appuyer sur les boutons.
T'as un petit stream deck, tu fais comment?
J'ai un petit stream deck, j'ai un petit podcast soundboard aussi un logiciel qui marche pas très bien. C'est pour ça. C'est de la faute de mon logiciel, c'est pas de ma faute. C'est comme quand on se quand je perds à Street Fighter, c'est de la faute de la manette, c'est les micro coupures d'électricité d'EDF, tu vois. C'est jamais de ma faute, c'est jamais de ma faute.